En quoi est-ce que c'est mineur une chanson, ça rencontre
oui, c'est
des
mineur.
Gens.
Tu as besoin d'initiation pour les arts majeurs. L'architecture et la littérature. Et la poésie, s'il te plaît.
Je peux parler ou pas?
Et moi, la liberté d'expression, j'ai jamais été pour. Et le pluralisme, je sais même pas ce que ça veut dire, ces mots d'intellectuels.
Qu'est-ce que vous voulez dire?
Mais qu'est-ce que tu fais si
qu'est-ce que vous voulez dire?
Je vous demande de me laisser faire cette émission.
Il faudrait que je boive un coup, je crois. Il faut que je décompresse un peu parce qu'enchaîner directement.
Voilà, comme quoi la littérature n'adoucit pas forcément les mœurs.
France Culture, les termes du débat, Emmanuel Laurentin.
Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat spécial du vendredi, les termes du débat, émission pendant laquelle nous nous attachons à un terme qui nourrit le débat public aujourd'hui. À l'ordre du jour ce soir, éco-terrorisme. Les affrontements entre manifestants écologistes et forces de l'ordre le week-end dernier à Sainte-Soline, dans les Deux-Sèvres, ont donné lieu à différents qualificatifs. Quand les opposants au développement des bassines alimentées par les nappes phréatiques l'hiver pour arroser les cultures l'été revendiquent l'éco-activisme, le ministre de l'Intérieur préférait lui parler d'éco-terrorisme. Un terme fréquemment utilisé depuis les années 70 aux États-Unis, mais aussi en Grande-Bretagne, mais qui, selon les spécialistes, ne peut s'appliquer à des manifestations qui ont eu lieu en France. Pourquoi donc s'en servir? À quoi renvoie-t-il? Comment des mouvements fondés initialement sur la non-violence tomberaient-ils dans la violence et plus encore dans la violence terroriste? Nous allons en discuter avec nos deux invités, avec Sylvie Olitro. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice de recherche au CNRS, rattachée à Paris-Nanterre et également à l'École des hautes études en santé publique. Vous êtes spécialiste des mouvements écologistes, de la désobéissance civile et vous avez publié l'année dernière aux presses universitaires de Rennes, donc dans un ouvrage collectif qui s'intitulait « L'abandon du projet de Notre-Dame-des-Landes », un article qui s'intitule « Du Larzac au zadisme ». Donc nous allons peut-être discuter justement de cela, de cette évolution depuis les années 70 jusqu'à aujourd'hui, en compagnie également de Philippe Pelletier. Bonsoir Philippe Pelletier.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de géographie à l'Université Lyon 2. Vous êtes auteur de plusieurs livres autour de la question de l'écologie, dont Noir et Vert, Anarchie et écologie, une histoire croisée, publié en janvier 2021 aux éditions Le Cavalier Bleu, et Le Puritanisme Vert, aux origines de l'écologisme, paru en octobre 2021 aux éditions Le Pommier.
Une grande partie de cette manifestation a été extrêmement violente, avec des attaques physiques, vous l'avez vu, sur les gendarmes, des attaques avec des boules de pétanque, des cocktails Molotov, des objets contondants, des mortiers. Cette partie de la manifestation extrêmement violente relevait d'activistes. Une quarantaine de personnes fichées S à l'ultra-gauche ont été repérées dans cette manifestation avec des modes opératoires qui relèvent, je n'ai pas peur de le dire, de l'éco-terrorisme que nous devons absolument combattre.
L'éco-terrorisme, c'est une insulte aux militants de l'écologie et c'est une insulte aux victimes du terrorisme. Et j'ajoute une chose, c'est aussi une façon de créer une polémique. Dans la polémique et quelque part un écran de fumée par rapport au contenu du combat. C'est d'ailleurs de quoi on va parler, de ce terme, et pas du fond du sujet, qui est de savoir si oui ou non il est juste de réserver pour 12 agriculteurs des immenses bassines qui vont dérégler en fait le cycle de l'eau et qui sont en plus financées à 70% par de l'argent public.
Et voilà, elle avait raison, effectivement, Clémentine Autain, en réaction, donc, la députée de la France Insoumise à ce qu'avait dit Gérald Darmanin, elle avait raison de dire qu'effectivement, nous allions parler de ce terme et non pas du reste, mais nous allons aussi parler du reste puisque nous avons entendu d'abord le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui s'exprimait après les manifestations des méga-bassines de Sainte-Soline, qualifiant donc certains militants d'éco-terroristes. Est-ce que, de toute façon, ce terme était utile, il est utile de l'utiliser pour parler de ce qui se passe en France, vous qui êtes spécialiste des mouvements écologistes Sylvie Olitro, ou est-ce qu'il est outré, ou est-ce qu'il nous prédit un avenir peut-être pour une écologie politique qui changerait de nature?
En tout cas, il est peu adapté parce que l'écoterrorisme en réalité renvoie, alors effectivement, je dirais à une codification criminelle, mais qui existe aux États-Unis et qui renvoie surtout à des mouvements d'une autre nature que ceux qui se sont produits à Soline, c'est-à-dire des actions directes qui sont violentes, là pour le coup, c'est pas non violent, et qui émanent souvent des mouvements spécistes, véganes, et d'une écologie surtout de protection des animaux et de protection aussi, je dirais un peu, voilà, activiste, de ce qui, par exemple, Earth First Liberation ou Animal Liberation. Donc, ce sont d'autres caractéristiques. caractéristiques. Et clairement, c'est souvent des sabotages avec des pourcibles des entreprises et non pas des forces de l'ordre. Mmh. Donc, c'est pas tout à fait, en tout cas, adapté. Ou alors, on peut réinventer, je dirais, la catégorie, mais c'est pas tout à fait la. En tout cas, à l'origine, ça ciblait une autre forme de, je dirais, criminalité, en gros, ou en tout cas d'actes militants criminalisés.
Philippe Pelletier, dans les travaux que vous avez menés autour de la question du mouvement écologiste, vous insistez beaucoup, aussi bien dans Noir et Vert que dans Le Puritanisme Vert, donc l'un publié au Cavalier Bleu et l'autre au Pommier. Vous insistez beaucoup sur des origines qui ne sont pas des origines de gauche et donc qui sont des origines plutôt marquées à droite dans l'histoire du XXe siècle européen. Et donc ces origines seraient assez éloignées de cette idée que l'on peut se faire du terrorisme, même s'il peut y avoir un terrorisme de droite, voire un terrorisme d'extrême droite, et ça on le sait. Qu'est-ce qui justement vous a poussé en tant que géographe, spécialiste du Japon, à vous intéresser justement à cette longue histoire de l'écologie avec justement tous ces surgeons qui jouent, pourrait-on dire, dans toute la gamme de la vie politique française en particulier?
Ben disons qu'en tant que géographe, il y a un rapport intrinsèque entre l'écologie et la géographie, ce qui a fait d'ailleurs l'objet de l'un de mes derniers livres sur une histoire tumultueuse, CNRS Édition, parce que, en fait, la problématique commune, c'est la nature, l'environnement et le rapport entre les deux. Après, sur la question du terrorisme, moi, j'aurais deux réflexions. La première, c'est que des activistes biélorusses ont arrêté des trains qui convoyaient des troupes russes en direction de l'Ukraine. Et ils se sont fait qualifier de terroristes par le gouvernement Loukachenko. Mmh. Donc, on est toujours le terroriste de quelqu'un, quelque part. Et puis, la seconde réflexion, c'est que cette formulation d'écoterrorisme, elle a été largement promue par le FBI, notamment à partir de 2002, contre des activistes de l'environnement. Donc en fait, parler d'écoterrorisme, c'est reprendre le vocabulaire du FBI américain. Et en plus, pour terminer là-dessus, je pense que effectivement le terme n'est pas du tout adapté, parce que il se centre sur la question de l'écologie, qui est une science. Si on élargit, on peut dire l'environnement, mais là, dans le cas des...
On a eu un petit problème avec vous, Philippe Pelletier. Est-ce que vous m'entendez ? Non, alors on va retrouver Sylvie Olitreau pour continuer cette conversation. Vous m'entendez, Sylvie Olitreau ?
Coupure, mais ça, je vous entends.
Voilà, vous m'entendez maintenant à nouveau. Donc, il faudrait évoquer cette longue histoire, puisque vous l'évoquez dans votre article sur de Notre-Dame-des-Landes, du Larzac au zadisme. Cette longue histoire qui est marquée aussi par la question justement de la non-violence. Le Larzac a été un moment très important dans les années 70 de naissance, pourrait-on dire, et de développement de l'écologie politique, avec cette idée qu'il passait par la non-violence active, qui était très affirmé sur le plateau du Larzac. Comment en est-on venu justement à cette évolution qui a fait qu'il y a eu d'abord de la non-violence et ensuite des militants plus violents qui se sont adjoints aux militants non-violents? Ça a été le cas par exemple autour de Notre-Dame-des-Landes, mais c'est le cas dans beaucoup de manifestations, y compris d'ailleurs à Sainte-Soline. Et donc avec une variété, pourrait-on dire, beaucoup plus large qu'au départ, peut-être de types d'actions pour combattre soit le pouvoir en place, soit des entreprises, comme vous le disiez tout à l'heure.
Pour effectivement revenir au Larzac, on peut dire que c'est sur le plateau du Larzac que s'est constituée l'idée de la désobéissance civile, en tout cas, je dirais, à la française, parce qu'effectivement, on a nos matrices très particulières de militantisme, avec aussi, du coup, je dirais, tout un versant de catholiques de gauche, de tiers-mondistes qui ont pu être attirés par ces modes d'action. Et d'ailleurs, en réaction à une grande mobilisation qui a eu lieu aussi en 77, une mobilisation antinucléaire qui avait été un petit peu, alors représenter des points de comparaison avec Soline, c'est-à-dire relativement violente, et même plus que violente, puisqu'il y avait eu la mort d'un militant. Et ça avait vraiment transformé aussi et pris, enfin, une sorte de prise de conscience du mouvement qu'il fallait vraiment, d'une certaine manière, codifier les actions. Et aussi mettre à l'écart les plus violents d'entre eux ou les groupes qui se rattachaient à l'écologie. Alors, pour en revenir à l'actualité, effectivement, depuis en gros les années altermondialistes, au fur et à mesure des luttes anti-globalisation, anti-mondialisation, c'est assez rituel qu'il y a des groupes anticapitalistes, dits Black Bloc, qui s'adjoignent au mouvement écologiste au moment des grandes manifestations. Donc c'est si vous voulez, ce qu'on a retrouvé là, c'est aussi une grammaire militante et une grammaire militante qui maintenant devient quasiment ritualisé et qui pose question, mais qui est questionnée au sein du mouvement, puisque au sein du mouvement, les questions de violence sont centrales et le rapport à la violence ou la non-violence reste central.
Et sur ce point, Philippe Pelletier, on vous a retrouvé. Est-ce que dans la longue histoire de l'écologie telle que vous l'avez donc écrite dans plusieurs ouvrages, en particulier dans le Puritanisme vert et Noir et vert, Anarchie et écologie, cette question de la violence était, présente, ou est-ce qu'elle était, marginale et elle devient de plus en plus présente aujourd'hui ?
Déjà, il faut distinguer l'écologie en tant que science et l'écologisme, le mouvement d'idées, le mouvement politique, qui s'appuie plus ou moins sur cette science. Donc si on part de ce mouvement, on a plusieurs options, plusieurs variations, qui montrent qu'en réalité, l'écologisme dépasse finalement les questions environnementales. Et si on en revient à l'actualité en France, on voit bien aussi qu'il faut recontextualiser, c'est-à-dire qu'on est dans une période sociale tendue, qui n'échappera à personne, notamment à la suite du mouvement des Gilets jaunes, où il y a finalement une réappropriation du mode d'action, peut-être plus radical, qui se traduit aussi sur d'autres domaines et qui, je le répète, ne sont pas que des domaines environnementaux, puisque c'est les questions socio-économiques. Produire quoi, comment et pour qui. Donc, de fait, la question de la violence posée de façon ontologique, on va dire, en tant que soi, hors sol, déconnecté, correspond pas du tout à cette évolution à la fois interne des mouvements de contestation. Et là, il y a une distinction majeure avec le Larzac, qui au départ était aussi et d'abord une lutte antimilitariste, et puis par rapport à ce qui se passe socialement dans le pays.
Et cela, tout de même, peut avoir à voir à la mondialisation, avec la mondialisation de l'écologie aussi, parce que ces mouvements sont traversés par évidemment beaucoup de d'allées et venues de militants qui peuvent venir d'ailleurs. On sait combien une écologie, par exemple, allemande a beaucoup nourri, en partie, un peu avec retard, l'écologie française, comme il y a eu aussi des allers-retours avec d'autres types d'écologie, Philippe Pelletier. Donc, il faut aussi prendre en compte cette mondialisation d'un mouvement écologiste qui, au départ, était peut-être centré sur les États-Unis et sur l'Europe de l'Ouest à un certain moment, mais qui maintenant prend des allures beaucoup plus vastes avec les COP, avec les manifestations qui se tiennent lors des COP ou lors des forums internationaux.
Oui, bien sûr, il y a un caractère de mondialisation à partir du moment où le discours environnementaliste parle de la planète Terre et non pas de l'humanité d'ailleurs, mais je pense qu'il faut faire très attention parce que dans le cas de Sainte-Soline par exemple, l'association Bassin Non Merci qui impulse la lutte regroupe 150 organisations, donc ce n'est pas rien, dont des paysans locaux. Donc là, ce n'est pas un mouvement hors sol où des militants venus dont c'est pas trop d'où d'ailleurs viendraient finalement mettre le bazar. Je pense que cette lecture c'est une lecture qui détourne la problématique et qui renvoie d'ailleurs, soit dit en passant, à quelque chose contre les étrangers. Finalement, ça vient d'ailleurs et quelque part, ça reconnecte avec les fantasmes qu'on a dans la société française vis-à-vis de l'étranger.
Oui, mais en même temps, on sait combien ce qui s'est dit au moment, par exemple, de mai 68 était lié à ce que vous venez de dire, Philippe Pelletier, effectivement, Daniel Cohn-Bendit, qui venait de l'étranger pour porter le fruit de la contestation au sein de la société française. Mais ça peut arriver, effectivement, que des mouvements qui sont internationaux travaillent ensemble, se passent des registres, rentrent dans le registre d'action des éléments qui sont utilisés ailleurs pour pouvoir les réutiliser ici, tout de même.
Ben, ça dépend. Les modalités d'action, là, elles ont été décidées, d'après mes informations, collectivement, sur place, avec un appel effectivement à manifester, et puis aussi l'héritage d'une contestation de longue durée qui s'est déroulée non loin à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Mmh. Donc moi, je pense que, quelque part, c'est le retour au local, mais un local qui refuse d'être localiste, si je puis dire, et qui, depuis, demande du soutien, de la solidarité.
Sylvie Olitreau, sur ce point.
Je suis assez d'accord avec le collègue, c'est-à-dire que clairement, il y a toujours, y compris les ZAD, le LARZAC, enfin tous les grands mouvements environnementaux s'incarnent ou s'enracinent au local. Et il y a toujours des tissus locaux, je dirais, de soutien. C'est ça qui d'ailleurs fait la force, enfin du moins lorsque les conflits durent et quand les conflits... je dirais, deviennent majeurs, c'est bien parce qu'il y a un soutien au local, que ça soit, enfin, ça s'est vu au LARZAC, mais ça s'est vu à Plogoff, ça s'est vu à Notre-Dame-des-Landes, qui est partie quand même aussi d'une dynamique locale, c'est-à-dire de refus d'expropriation, hein, tout bêtement, hein, d'un certain nombre, je dirais, d'agriculteurs. Et là, on sait qu'il y a aussi un soutien local, même si, alors, tout n'est pas, voilà, il y a des tensions entre mode d'agriculture et aussi entre agriculteurs. Mais il y a quand même aussi le soutien de la Confédération paysanne, donc ce n'est pas totalement extérieur. C'est ça aussi qui fait un peu l'originalité de l'écologie, c'est-à-dire à la fois, c'est d'ailleurs le thème, enfin, pratiquement leur devise, c'est penser globalement, avoir l'idée de l'interdépendance, savoir circuler dans divers espaces, mais être aussi incarné et aussi être au plus près du local.
Agir localement,
c'est ça. Et d'une ressource. Oui, tout à fait.
Sur ce point, Philippe Pelletier, puisque vous développez dans votre livre Noir et Vert un chapitre quasiment entièrement consacré justement à cette devise, donc penser globalement et agir local.
Oui, ce slogan a été avancé en 1972 lors du sommet de Stockholm, considéré comme l'un des premiers sommets internationaux sur la Terre par deux écologistes, deux écologues en plus, d'obédience catholique, ce qui quand même pose une interrogation sur finalement le concept. Moi je pense qu'il, pour le coup, il faut penser local et agir local, et bien sûr derrière c'est comment on monte en généralité, et là c'est toute la problématique de forme fédéraliste, libertaire par exemple, qui évite de s'enfermer dans l'entre-soi, mais qui en même temps se méfie de toute gouvernance, y compris les gouvernances mondiales, y compris les gouvernances de type gouvernemental et étatique, comme les COP par exemple, ou les sommets internationaux, dont on voit pas bien les résultats, justement, sur place, au plus près du quotidien des habitants.
Oui, parce que il faut dire dans votre livre Noir et Vert, comme d'ailleurs dans Le Puritanisme Vert, que vous prenez pour cible tout de même une écologie qui serait trop marquée en particulier par le catholicisme ou par le protestantisme, donc avec une, disons, une vision apocalyptique. Vous attaquez pas mal la collapsologie, Philippe Pelletier, en disant tout compte fait que ça n'est que une nouvelle manière pour la petite bourgeoisie diplômée occidentale de se réhabiller en autre chose, mais ce sont les vieilles obsessions qui caractérisent les monothéismes, la peur de l'apocalypse, l'attente du prophète et la venue du Messie qui se rhabille de cette manière-là, selon vous, dans la société contemporaine.
Oui, c'est du rhabillage qui correspond finalement à un recul a priori des religions, alors qu'en réalité on constate aussi la remontée des religions monothéistes comme l'islam, mais aussi le catholicisme traditionnel. Mais on observe aussi dans nos sociétés soi-disant laïques et soi-disant déconfessionnalisées, finalement un retour du religieux par d'autres biais, sous des apparences qui ont l'air d'être finalement laïque, qui refuserait la transcendance, mais qui en réalité réinstaure la nature comme quelque chose de sacré. Et puis surtout, et c'est là que je voudrais conclure ce propos, c'est que finalement, le puritain, le protestant, dans son origine, il est seul face à Dieu, c'est-à-dire seul face à la nature qui est œuvre de Dieu, donc il est responsable, mais éventuellement coupable, ce qui finalement renvoie la question environnementale à des comportements individuels et non à des choix collectifs de société. Donc c'est ce qui se passe un petit peu actuellement, notamment sur des questions parallèles, qui sont les questions d'alimentation, où il y a beaucoup de tabous, ou encore le concept de dette écologique.
Oui, on y reviendra avec vous et avec Sylvie Olitreau dans ces termes du débat. Aujourd'hui, nous débattons du terme d'éco-terrorisme. Il est 18h40 sur France Culture et nous sommes en compagnie de Sylvie Olitreau, directrice de recherche au CNRS, rattachée à Paris Nanterre et également à l'École des hautes études en santé publique, spécialiste des mouvements écologistes et de la désobéissance civile. Et également de Philippe Pelletier, professeur de géographie à l'Université de Lyon 2 et auteur de Noir et Vert, anarchie et écologie, une histoire croisée publiée aux éditions Le Cavalier Bleu et du Puritanisme Vert aux origines de l'écologisme, paru aux éditions Le Pommier.
Plusieurs centaines de militants accompagnent José Bové jusqu'aux portes de la prison. Il est ravi, il a réussi à faire de son incarcération une grande fête médiatique. Mais il était convoqué à la maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maglones à 8h. Il est 16h, les gendarmes interviennent. Les esprits se sont échauffés, des coups sont échangés avec les forces de l'ordre. Dans la plus grande bousculade, le leader de l'antimondialisation est incarcéré, sans ses compagnons.
C'est pas la répression qui va nous arrêter, c'est vrai que les lignes blanches, dans une démocratie comme la France, il faut savoir à certains moments les franchir, et c'est vrai qu'on est prêt à les passer.
À la maison d'arrêt, José Bové a une peine de 2 mois et 10 jours à effectuer. En théorie, il devrait bénéficier de remises de peine. Ce soir, les détenus ont eux aussi, en rythme, manifesté contre son incarcération.
France Culture, les termes du débat, Emmanuel Laurentin.
Une archive de 2002, France 3 revenait sur l'incarcération du militant paysan José Bové, condamné pour le démontage du McDonald's de Millau en 1999. Sylvie Olitreau, effectivement, c'est cette matrice non violente qu'on entend par la voix de José Bové, qui a été un des militants du Larzac dans les années 70, et qui dit on n'a jamais utilisé la violence, on a démonté le McDonald's de Millau, et qui d'ailleurs, lorsqu'il était interrogé lors de manifestations contre l'OMC, à Seattle, répondait aux Américains un peu surpris. Nous n'avons fait que faire ce que vous avez fait avec la Boston Tea Party, donc se référant à la guerre d'indépendance américaine, donc contre les Britanniques.
Oui, alors tout à fait. Alors, on avait interrogé avec Graham Hayes, mon co-auteur, dans l'ouvrage La désobéissance civile. Je dirais, on a fait un chapitre entier sur la question, justement, du rapport à la violence et du sabotage, de la dégradation. Parce que clairement, il y a le sujet violence, qui est quand même, je dirais,
La non-violence marche parallèle à la violence, la violence de l'État ou la violence d'autres militants.
Tout à fait. Donc il y a à la fois cette différenciation et surtout cette légitimation, c'est-à-dire qu'en réalité il y a toujours une mise en scène voire une tension dans ce genre de conflictualité, c'est-à-dire y compris lorsque on va vers un répertoire illégal, on va dire, vers du sabotage, on doit aussi expliquer, se légitimer, et bien souvent, et c'est ce qu'on entend actuellement, c'est au nom d'une urgence. Alors, je dirais pour les OGM, c'était une urgence à agir parce que les OGM risquaient, par exemple, de disséminer, des graines OGM dans la nature. Là, pour le coup, maintenant, on est dans l'urgence climatique, mais on est un petit peu toujours dans cette manière, de légitimer même des actes qui, vu de l'extérieur ou vu par le droit ou l'ordre public, est vu quand même comme une violation, quand même, ou une illégalité. Et donc l'idée, c'est clairement de renvoyer la balle en boomerang, en expliquant que si on est obligé d'aller jusqu'à cette illégalité, c'est bien parce qu'il y a urgence ou bien parce qu'en tant que citoyen, on ne peut pas ne pas rester sans agir. Mmh. Et c'est cette impériosité qui légitime ce qui est quand même une catégorie de violence pour le droit pénal.
Hein. Oui, Philippe Pelletier.
Oui, je pense qu'en fait, il faut faire attention de ne pas tout mélanger, plus exactement. C'est tout phénomène de non-violence n'est pas forcément lié à l'environnement ou question d'environnement. Tout phénomène d'illégalisme n'est pas forcément violent. De la même façon que des formes de violence sont parfaitement légales ou légalistes, il suffit de penser à ce qui se passe pendant la guerre. Donc en réalité, Une fois de plus, les mouvements sociaux finalement choisissent les outils, les moyens
les registres.
Qui correspondent à leur fin à un moment donné, en fonction du rapport de force. Et le choix, et là le syndicalisme ouvrier l'a bien montré, le choix d'action plus radicale, finalement, leur est imposé par rapport à la résistance ou par rapport à la répression subie. Et que d'une certaine façon, on le voit bien aussi dans les mouvements sociaux ou environnementalistes actuels, on a l'impression que finalement, on peut multiplier les colloques, les conférences, les débats, les articles de journaux, que finalement, rien ne perce et qu'il vaut mieux une action spectaculaire de préférence qui renvoie finalement à la société du spectacle et au monde médiatique qui aime bien aussi ce type d'intervention.
Et cela, vous pensez que c'est donc justifié, Philippe Pelletier, par, disons, le contexte social, le contexte politique actuel, et que donc il n'y a pas à condamner ce type d'action, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire, évidemment, on parle de l'écoterrorisme, mais en l'occurrence, on a bien dit depuis le début qu'il n'y a pas d'écoterrorisme en France, en l'occurrence, que c'est une expression qui ne s'applique pas momentanément à ce qui se passe en France. Mais disons, les violences ou l'illégalisme que vous évoquiez tout à l'heure peuvent être justifiés, selon vous, par le contexte actuel ?
Les moyens illégalistes et radicaux ne s'attaquent pas aux personnes en tant que telles, sinon aux forces qui défendent le système actuel, s'attaquent essentiellement aux choses ou aux projets. C'est le cas des méga-bassines, en fait des cratères, qui se trouvent dans les Deux-Sèvres. Donc c'est un projet jugé inadapté, coûteux, inutile, finalement, qui mobilise des personnes depuis d'ailleurs plusieurs années, plusieurs mois, avec des gens locaux, des paysans, y compris des gens qui au départ soutenaient ce projet et qui se sont rendus compte que c'était n'importe quoi. Donc du coup, la réaction, elle se dessine, et finalement, quand les réponses sont des réponses dilatoires, ou les enquêtes du type public dont les résultats sont pratiquement connus d'avance, eh bien fatalement, il y a une montée des tensions.
Mais néanmoins, il y a des blessés du côté des forces de l'ordre, et on peut se dire ces forces de l'ordre ne devaient pas être blessées dans un contexte comme celui-ci, qui au départ était un contexte qui se voulait le plus non-violent possible.
Alors, des blessés du côté des gendarmes, effectivement. Des manifestants, 60 blessés, dont 6 hospitalisés, dont un qui a été arrêté à l'hôpital de Poitiers.
Il y a d'ailleurs une manifestation aujourd'hui.
L'équipe médicale.
Oui, il y a une manifestation aujourd'hui pour protester contre sa garde à vue, je crois, à Poitiers même. Sylvie Olitreau, on voit bien qu'il y a, à un moment ou à un autre, une difficulté à choisir le bon chemin pour pouvoir avancer et contester les décisions prises par des gouvernements, ou par, en l'occurrence, là, ça n'est pas des gouvernements, ce sont donc des négociations entre des groupes de paysans et donc l'État. Il y a donc des difficultés à trouver le bon chemin, d'autant que Notre-Dame-des-Landes, sur laquelle vous avez travaillé, a donné, au bout du compte, satisfaction à ceux qui protestaient contre l'État, puisque le projet a été abandonné.
Alors, pour aussi recontextualiser, effectivement, entre ce qui s'est passé au moment même de Notre-Dame-des-Landes, en fait, pour le dire clairement, Notre-Dame-des-Landes, c'était la première ZAD. Actuellement, il y a un enjeu et qui fait que la conflictualité est très forte, et des deux côtés, j'imagine, et en tout cas de la part du préfet et de la part aussi des forces de l'ordre. L'enjeu principal, c'est qu'il n'y ait pas une nouvelle ZAD, pour le résumer. Donc, clairement aussi, tout à l'heure, le cas de José Bové, c'était un cas de désobéissance civile, je dirais, assez classique. Là, on est quand même dans le cadre d'une manifestation. Alors, une manifestation qui se déclarait dans la désobéissance civile parce qu'illégale et autres. Mais même si ça reste quand même une manifestation et un espace de contestation qui actuellement, et ça, c'est depuis... l'instauration, alors d'abord de l'état d'urgence qui était motivé par les attentats, puis aussi les conflits sociaux qui se sont multipliés. On sait que la répression est beaucoup plus forte, que les troubles à l'ordre public, en tout cas, sont craints de la part du gouvernement. Et donc, on essaye aussi d'éviter. Alors, on essaye d'éviter que ça s'enquiste. Et en réalité, du coup, parfois, ça projette une conflictualité encore plus forte. Mmh. Donc, ça, je pense qu'il faut aussi recontextualiser. C'est-à-dire que ce qui s'est produit il y a 20 ans avec José Bové, actuellement, on vit dans un autre cycle de mobilisation. Donc ça a aussi un effet différent. Même en étant dans la désobéissance civile, ça aura un effet différent.
Oui, et puis vous insistez, Philippe Pétier, dans vos livres, que ce soit le puritanisme vert, mais surtout dans Noir et Vert, vous insistez sur le fait que l'écologie politique est acceptée finalement d'entrer dans l'appareil d'État, que c'était vu même parfois comme une sorte de victoire, justement par les militants écologistes qui étaient hors de l'État et qui parfois critiquaient même la structure de l'État, et qu'en y entrant, d'une certaine manière, eh bien, ils avaient changé de posture par rapport aux forces de l'ordre, par rapport à l'État, par rapport à la légalité, etc., etc.
Oui, par rapport au refus de la guerre et par rapport au nucléaire civil aussi, hein, civil et militaire. Mais en réalité, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que, finalement, la société, les habitants ressentent une contradiction entre des discours surplombants d'injonctions où le mot d'urgence est martelé avec un alarmisme permanent qui ouvre les principaux journaux télévisés ou radiodiffusés. Donc en haut, et puis en bas, quand il y a des projets qui s'avèrent vraiment inutiles, vraiment, 12 agriculteurs, 17 hectares, 70% donc de fonds publics pour un projet pour ces 12 exploitants qui font du maïs, qui vont servir au bétail et qui vont finalement conforter une logique d'agriculture intensive et exportatrice. C'est contradictoire avec ces discours.
Je ne suis pas sûr que s'ils étaient autour de ce micro avec vous, ces agriculteurs seraient d'accord avec votre lecture, mais vous pouvez évidemment l'avancer, Philippe Pelletier. Mais en l'occurrence, j'imagine que disant qu'ils sont en coopérative, ils n'imaginent pas effectivement être a priori les principaux acteurs du capitalisme vert que vous critiquez dans votre livre en particulier.
J'ai raté le début de votre question.
Je disais que si vous étiez avec les agriculteurs en question qui ont fondé une coopérative, ils seraient sûrement pas d'accord pour pouvoir se voir qualifiés justement comme des parangons du capitalisme vert que vous critiquez dans votre livre.
Ah, mais après, chacun se positionne. Moi, je propose une analyse du système global. Je pense qu'il va dans ce sens-là. Je comprends aussi que ça puisse perturber certaines personnes. Mais la suite des événements nous le dira.
Sylvie Olitreau, quand on réfléchit à cette avancée, puisqu'on parle de suite des événements, on a souvent parlé justement de cet écoterrorisme de nature américaine ou anglo-saxonne, puisqu'on évoquait aussi la Grande-Bretagne au tout début de cette émission, comme disant, comme un mouvement qui pouvait venir en France, qui pouvait arriver en Europe, sur des terres où justement ce puritanisme vert critiqué par Philippe Pelletier n'était pas particulièrement développé. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée-là, puisque ça fait, disons maintenant, au moins 30 ans qu'on dit « regardez ce qui se passe aux États-Unis, ça va arriver, les gens vont s'attacher aux arbres, les gens vont aller entrer dans des exploitations pour les détruire ou pour libérer les animaux ». On n'a pas tellement vu cela jusqu'à maintenant chez nous. Qu'est-ce qui explique cette crainte vue de France, de la part en particulier du milieu agricole, mais j'imagine des hommes et des femmes politiques aussi qui représentent les agriculteurs dans les gouvernements, par exemple les agriculteurs ou d'autres, des industriels aussi.
Alors, tout à fait. En même temps, sans que ça soit de la même mesure que les États-Unis, il y a quand même des phénomènes qui commencent à apparaître, hein, sur la cause animale notamment. Là, pour le coup, c'est pas une position morale sur la question, hein, c'est simplement le montrer. Il y a quand même un certain nombre de il y a eu des atteintes, notamment pour le signaler, des boucheries qui ont été attaquées avec je crois de la peinture rouge et des signaux, je dirais, démontrant et stigmatisant l'activité. Je pense que il y a de plus en plus, souvent c'est des groupes très petits, quelques individus, qui peuvent quand même perturber, on va dire. On a vu ça aussi cet été, perturbation, sabotage des golfs, des piscines, etc.
Alors, au fur et à mesure, on est loin quand même de ce qu'on pourrait appeler de l'écoterrorisme à l'américaine.
Oui. Alors, on est loin d'eux, mais l'État a déjà réagi, hein, puisqu'il y a déjà une cellule, notamment de gendarmerie, dans le monde agricole, qui surveille très clairement ces activités. Donc, on est encore loin. Mais comme tout, voilà, ça inquiète aussi peut-être parce que c'est nouveau, effectivement. Et c'est pas du tout des modes d'activité, y compris écologiques, enfin qu'on connaissait, puisque les écologistes finalement restaient, on va dire, dans un répertoire d'action, en y ajoutant sans doute la désobéissance civile, mais qui restait très, qui était
classique.
Connu, classique, manifestation, pétition, espace de concertation, etc. À partir du moment où, il y a que des petits groupements ou des individus et des réseaux, c'est vrai que ça inquiète. Alors, quand je dis ça inquiète, c'est pas, voilà, je pense aussi que c'est peut-être démesuré d'appeler ça écoterrorisme, mais en tout cas, ça peut alimenter à la fois les peurs et un gouvernement ou un État qui a besoin peut-être de stigmatiser un mouvement social peut utiliser effectivement ces groupuscules-là pour les opposer et en faire, la partie qui devient le tout.
Sans compter, Philippe Pelletier, une autre ministre, Rima Abdul-Malak, a évoqué à propos des attaques dans les musées sur les tableaux, un éco-vandalisme. Donc, on voit bien qu'il y a désormais, des adjectifs qui sont accolés au terme d'écologie qui n'y étaient pas auparavant.
Oui, parce que ce sont des interprétations faciles pour un phénomène relativement complexe et surtout qui comprend plusieurs tendances. La première tendance qui peut être liée idéologiquement, historiquement à ce qui se passe aux États-Unis, notamment dans le milieu protestant puritain, c'est par rapport à l'animalisme ou encore au véganisme. Et sur une approche qui est double. D'une part, c'est le « tu ne tueras point », qui est le 13e précepte du décalogue vétérotestamentaire, et puis sur la critique du système d'abattage industriel et d'élevage industriel et de protestation légitime contre la cruauté envers les animaux. Et puis, il y a un second phénomène qui ne se chevauche qu'en partie, qui est une prise de conscience de la part de la population, des jeunes notamment, et c'est pour ça que on peut pas parler de groupuscule parce que c'est relativement massif, on le voit bien, y compris dans nos amphis, une préoccupation vis-à-vis de l'alimentation, de l'agriculture, de la paysannerie, parce que on a bien compris que le monde paysan est en train de se faire manger, si c'est pas déjà fait, par l'agro-industrie, sur des modalités qui finalement sont préoccupantes. Où l'entretien des pays, la vie des communautés locales sont menacées et que l'objectif n'est non pas de nourrir les populations, mais de faire de l'argent, beaucoup d'argent.
Merci à tous les deux, Sylvie Olitreau. On aurait pu continuer plus longtemps cette conversation avec vous deux. Sylvie Olitreau, directrice de recherche au CNRS, attachée à Paris-Nanterre et à l'École des hautes études en santé publique, spécialiste des mouvements écologistes et de la désobéissance civile. Vous avez publié récemment dans un livre collectif aux presses universitaires de Rennes l'abandon du projet de Notre-Dame-des-Landes. Vous avez publié un article sur Notre-Dame-des-Landes du Larzac au zadisme. Et merci à vous, Philippe Pelletier, professeur de géographie à Lyon 2, auteur entre autres de Noir et Vert, Anarchie Écologie, une histoire croisée chez Le Cavalier Bleu et du puritanisme vert aux origines de l'écologisme paru aux éditions Le Pommier. Le temps du débat a été préparé ce soir par Mathias Mégy, Mathilde Barbier, Stéphanie Villeneuve, Fanny Richer, Balthazar Sibieux et Cécile Bidot, réalisé par Françoise Le Floch. Et à la technique, Sofiane Active était avec nous. Vous pouvez évidemment réécouter et télécharger l'émission sur le site internet de France Culture, l'application Radio France. Lundi, le temps du débat évoquera le conflit en Arménie et se demandera si l'Europe a laissé la place dans cette région à Vladimir Poutine. Rendez-vous entre 18h20 et 19h sur France Culture.